les blablas de l'ESS en partenariat avec
Le Champ Commun,
Timbre FM
et Essentiel Pleur Mel.
Et la foule est en délire. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses en ce mercredi 24 avril pour assister au blabla de l'ESS. Cette discussion, débat proposée par le pôle Essentiel Pleur Mel en partenariat avec Timbre FM qui enregistre et rediffuse sur ses ondes après montage la soirée. Et aussi l'Estaminet du Champ Commun qui nous accueille tous les 3 mois pour cette discussion débat itinérante. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette discussion débat ? Eh ben, on part d'une expérience de référence avec des acteurs qui portent une initiative locale pour susciter une discussion sur des thématiques qui peuvent intéresser les citoyens et les citoyennes. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de montrer qu'un autre modèle économique est possible. Et c'est d'autant plus vrai que nous sommes entre les murs de la cycle Champ Commun et qui le démontre au quotidien. Ce soir, c'est l'association L'Elfe qui vient nous parler de son initiative qui est celle de la Caravrac, une épicerie itinérante solidaire en milieu rural. Et bien sûr, pour l'animation, c'est le célèbre et fameux Henri-Georges Madeleine.
Bien, je pense que c'est à moi de parler. Alors, on commence toujours par une présentation qui est celle d'une petite vidéo qui met en jambe. Là, on n'a pas réussi à trouver une vidéo qui soit directement raccord avec votre projet, ce qui veut dire que c'est un projet innovant et qu'il n'y a pas encore véritablement de comparatif. On a choisi deux petites vidéos qui sont plutôt sur la thématique de l'épicerie itinérante en milieu rural. Et l'une d'entre elles est directement située sur notre territoire. Donc ce sera l'occasion de se donner des idées et puis peut-être d'aller plus loin ensuite avec la présentation de Mathias et Émilie qui sont les porteurs du projet. Et donc on se retrouve d'ici une dizaine de minutes.
Comme tous les jeudis, Anne Morel brûle d'impatience.
J'attends Arnaud, oui. Moi, je n'ai pas de permis. Et puis, à 92 ans, hein, c'est difficile de se déplacer des fois. Hein. Là, on va prendre des commissions.
Et pour cela, quelques pas suffisent.
Bonjour. Alors, du vin.
Oui.
Vous n'avez pas trop froid ?
Oui, c'est pas chaud, hein.
Non.
Tu as des endives ?
Oui.
On va planter une endive d'endives.
Vous le tutoyez ?
Oui.
Ça fait longtemps que vous le connaissez.
Oh oui, à combien ? Il devait avoir 10 ans, bientôt, hein.
Plus que ça.
Plus que ça, oui. Ça dépanne, hein. Puis il y a de la bonne viande.
Voilà. Allez, bonne semaine.
Oui, au revoir.
Et puis un jeudi.
Oui, attendez tout ça.
Depuis 15 ans, la tournée d'Arnaud est une mécanique bien huilée.
Toutes les semaines, je passe à telle heure chez chaque personne. Donc ils sont habitués. Le jeudi, c'est toute une tournée comme ça, une trentaine de clients. Et demain, je vais ailleurs. Il faut vraiment qu'il y ait 20 cm de neige pour qu'on ne roule pas.
Prochain arrêt, la Trinité Porouette.
Ça, c'est surtout intéressant aussi pour eux, quoi. Ça leur fait une visite, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas grand monde dans la journée. Donc, Alors, un kilo de carottes. Alors.
Les clémentines.
Alors, j'en mets combien ?
Ouais, 1 kilo.
Il y a tout ce qu'il faut dans ce camion ?
Ben, jusque là, oui, je trouve tout en. Ça dépend, il y a de tout, hein. Vous voyez, hein, ce qu'il a là-dedans. Des patates.
J'ai travaillé dans un supermarché il y a pendant 8 ans. Et j'en ai eu marre, en fait. Je cherchais un autre métier. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça doit être un magasin, mais c'est pas du tout le même métier. Ici, on a vraiment le contact avec les gens, plus que dans un magasin. Là, on prend le temps. prend le temps, on discute, on parle de leur vie, même de ma vie. Des fois, on arrive à...
Non, on va se réchauffer au coin de la cuisinière.
Ouais.
Arnaud est un témoin du temps qui passe.
C'est bon ?
C'est bon ?
Ok, oui. Bon. Les campagnes se vident, en fait. Tous les petits villages... où avant il y avait peut-être, je sais pas, 50 habitants, enfin, enfants compris, maintenant ils sont plus de 2, 3. Et c'est pour ça, c'est là nous on intervient, surtout enfin, en campagne, là où il n'y a plus rien, où, et ça permet aux anciens de rester chez eux en fait, pas être obligé d'aller dans des maisons de retraite.
Allez, bien avant.
Bonne journée.
C'est dans cet entrepôt à Plougna que Arnaud ravitaille son camion, un camion qui appartient à la société Servade que vous dirigez, monsieur Château, bonjour. Cette entreprise qui sillonne les routes de Bretagne, elle concerne combien de personnes ?
Donc, on est sur environ 850 clients, sur 80 à 90 communes, et on rayonne sur une grosse partie des Côtes d'Armor. Du nord au sud, on va dire de Lamballe jusqu'à légèrement en dessous de Pontivy. D'ouest en est, on va de Rostronin à Jugon-les-Lacs.
Le métier d'épicier itinérant crée du lien social. Est-ce que cette dimension vous était importante au moment de racheter l'entreprise il y a 2 ans ?
Oui, mais de toute façon, c'est ce qui nous a intéressé dans l'entreprise, en fait. Hein. C'est le lien social, c'est exactement ça. La proximité avec les gens, l'échange. On a une équipe de vendeurs formidable, en fait. Ils sont là depuis un certain nombre d'années, ils connaissent bien leurs clients. Ils vont jusqu'à aussi partager avec la famille s'il se passe quelque chose. Et ils vont pouvoir alerter la famille, ils vont pouvoir alerter aussi les services d'urgence. C'est pas rare, hein, c'est pas rare.
Merci David Château, c'est la fin de cette onde positive. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet bretagne.france3.fr.
Les commerces de proximité disparaissent dans les campagnes. Il est nécessaire d'apporter une réponse aux besoins des villageois. Mon activité est marchand ambulant. Donc je livre du pain aux personnes en campagne. Et j'apporte aussi dans mon camion un complément avec de la crèmerie et de l'épicerie.
Ça va Sophie ?
Ça va, ça va.
Allez,
allez, go !
On y va !
Tiens.
Merci !
Tiens.
Actuellement, je sillonne 27 communes et je livre à peu près 350 clients par semaine. Les personnes qui bénéficient le plus souvent de mes services, ce sont les personnes complètement isolées, les gens qui sont en pleine campagne, qui sont seuls, souvent sans enfants, qui n'ont pas de moyens de locomotion ou plus parce qu'ils arrivent à un âge où ils n'ont plus la possibilité de se véhiculer.
Sandra Melil depuis 2 mois environ et je suis contente parce que actuellement je peux conduire mais malheureusement en vieillissant je serais bien contente d'avoir quelqu'un qui passe parce que dans les petits villages maintenant il n'y a plus rien, c'est vraiment dommage, on a même fermé l'école, maintenant on n'a plus rien, ni boulanger ni école, rien, alors vraiment on est content d'avoir quelqu'un qui vient pour nous aider.
Avant de démarrer cette activité, donc j'ai été dans la coiffure pendant plus de 20 ans. Et après avoir fait le tour du métier, j'ai décidé d'en changer. J'ai trouvé une annonce qui cherchait une vendeuse en boulangerie, mais en tant que marchand ambulant en fait. Pour moi, ça a été une découverte complète du métier.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Oui, on vous attendait.
Ah.
Avec impatience.
Le pied
ferme. Le pied ferme, oui.
Ce qui est plus agréable pour moi aujourd'hui, c'est vraiment quand j'arrive chez une cliente, c'est d'avoir ce sourire jusque-là. Rien que ça, moi, je me dis que j'ai passé une très belle journée.
Elle nous apporte un petit peu de gaieté, sa jeunesse, son sourire. Vraiment, c'est appréciable. Et on a envie que ça marche. Parce que c'est pas évident quand même. Hein. Faut pas avoir peur du risque. À lundi, bonne journée.
Merci, bonne semaine et bon week-end.
Oui, merci.
Bonjour à votre époux.
Oui, je vais pas manquer.
J'ai économisé 2 ans pour pouvoir trouver donc un camion afin de créer ce projet. Ça me tenait vraiment à cœur. Comme l'idée était très intéressante, les villageois, ils se sont vraiment liés entre eux, soudés, et ils se sont passés le mot pour que je puisse vraiment avoir maximum de clients. Et maintenant, c'est génial.
On a une relation différente d'une clientèle qui vient vers une boulangerie. On a un petit gâteau, un petit café qui nous attend, le partage de la famille, les photos. Voilà, c'est complètement différent. Voilà.
Parfait. J'accepte un café.
Tu vous voulez ?
Voilà.
J'ai le temps.
Vous avez le temps.
J'ai le temps.
C'est parfait.
Mes horaires sont de 8h moins le quart à peu près le matin jusqu'à des fois 16h, des fois 17, des fois 18. Tout dépend de ce que les personnes auront comme besoin.
Et les filles vont bien ?
Très bien.
Très bien.
Mmh. Oui.
Pas de problème.
Voilà. C'est bientôt les vacances.
C'est bientôt les vacances, bah oui. Des fois les prochaines, mais il y a toujours le temps de discuter, voilà. C'est une présence et pour moi, j'adore manger du pain frais. Hein. C'est clair. Alors, c'est quand même une présence, c'est un plus. On se fait des bonnes discussions en général.
Cette vie a plus de sens parce que je me sens plus épanouie. Si j'avais un message à passer, donc ce serait une solidaire.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À jeudi.
À jeudi.
Au revoir.
Donc, comme je vous le disais, ça n'a pas été facile de trouver une vidéo qui soit en lien directement. Et puis, vos applaudissements me laissent entendre que vous avez trouvé, comme moi, que c'est assez pauvre, quoi, en fait. Voilà. Et que il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, même sur ce type de métier, la nature des relations qui se passent avec les gens, elle est survolée aussi. Donc on pourrait très nettement aller plus loin, mais on va le faire avec vous. Alors Mathias et Émilie, vous êtes de quel endroit ?
On habite sur Moron.
Moron.
Entre Moron et Guélier, plus exactement.
Et votre projet, c'est la Caravrac. Qu'est-ce que c'est la Caravrac ?
Alors la Caravrac, c'est une épicerie solidaire itinérante. Qui a la particularité aussi d'être ouverte à tous, c'est-à-dire que tout un chacun peut venir y faire ses courses.
D'accord. Alors on va essayer de décoder un petit peu tous ces concepts, quoi, en fait. Donc on commence d'abord par l'épicerie solidaire. Qu'est-ce que ça veut signifier, l'épicerie solidaire ?
Eh bien, en fait, elle est solidaire dans le fait où on pratique une tarification adaptée, en fait, aux personnes qui ont des ressources minimal, j'ai envie de dire, mais qu'on a fait un petit peu à notre sauce, c'est-à-dire vraiment indépendamment des services publics.
Oui.
Un petit peu, au départ, c'était pas du tout le projet qu'on avait, on voulait travailler avec eux, ce qui n'est pas exclu aujourd'hui. Hein. Mais dans la construction du projet, en fait, on s'est retrouvé face à une institution un petit peu désabusée par rapport à notre projet, parce que c'était assez novateur, et qui nous a demandé en quelque sorte de faire un peu nos preuves par rapport à ce dit projet. Et donc il n'était pas question sur le moment, dans un premier temps en tout cas, que des personnes puissent bénéficier d'une aide financière de leur part pour pouvoir venir chez nous. Et donc il a fallu qu'on repense un petit peu notre système de solidarité, et donc nous est venue l'idée de créer une caisse dite solidaire qui serait alimentée soit par des dons que des personnes donnaient comme ça, ou sinon issue de ventes de produits à prix libre que des maraîchers ou des particuliers nous donnent des surplus de jardin ou autre.
Parce que une épicerie solidaire, habituellement, c'est une épicerie qui est réservée à des personnes qui sont dans la difficulté et qui sont orientées par des services sociaux, par exemple.
Oui, tout à fait. Et c'est déjà ce que l'on ne voulait pas. Étant travailleurs sociaux l'un comme l'autre au départ, on a pu goûter un petit peu à ce qui pouvait être l'aide alimentaire, voire la distribution alimentaire. Et on ne voulait pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on avait envie de repenser ça.
Et pourquoi ? Pourquoi vous ne vouliez pas ça ?
Eh bien, on ne voulait pas ça parce que il y a une dimension très stigmatisante qui a une considération qui peut être un petit peu gênante des fois de la part des associations ou des organismes qui gèrent ce genre de choses. Et on se doutait fortement qu'en milieu rural, ce ne serait pas jouable du tout. Pour le coup, la peur d'être stigmatisé, la difficulté pour les personnes qui sont en grande difficulté d'aller, par exemple, au CCAS, se rendre à la mairie, voir l'assistante sociale, en passant devant les habitants, enfin, des gens qui les connaissent, enfin, voilà. Et pour le coup, on a voulu ouvrir ça à tous aussi parce que ça nous permettait d'avoir une viabilité économique et donc de pas, en tout cas, de pas trop dépendre de subventions.
Donc ça suppose qu'il y ait des tarifs à géométrie variable alors ?
Alors en fait, là on est en pleine expérimentation, ça fait 7 mois qu'on a démarré, et on est parti sur un principe d'une réduction de 50% des achats pour les personnes, c'est-à-dire que pour une personne qui va faire un panier à 20 euros, elle n'en paiera que 10, et la caisse solidaire viendra compléter.
Ok, et tout le monde peut bénéficier de cette réduction ou c'est certaines personnes ?
Toute personne peut demander à en bénéficier, c'est-à-dire que nous on est sur du déclaratif, on ne demande aucun papier justificatif. On pense que les personnes sont les plus à même en fait, d'évaluer si elles sont dans le besoin ou pas. On ne voulait pas avoir à juger de la pertinence de la demande ou pas par rapport aux revenus des gens. Et pour le coup, ça fonctionne très bien.
Il y a des personnes qui ne le demandent pas et puis payent le tarif habituel, plein pot, ou c'est uniquement ce type de public qui vient vers vous ?
Ah non, on a des personnes très diversifiées. Et ce qui est génial d'ailleurs dans notre fonctionnement et qu'on découvre, c'est que des personnes qui sont des adhérents solidaires, donc qui donnent régulièrement quelques euros ou autres, peuvent se retrouver en panade à un moment donné, ponctuellement, et vont demander à en bénéficier pour finir le mois de manière un peu plus correcte.
D'accord.
Et reprendront le mois suivant à donner dès qu'ils pourront un petit peu. Et à l'inverse, des gens qui ont pu bénéficier une ou plusieurs fois de cette aide, qui une fois qu'ils voient leur situation s'améliorer, sont contents de pouvoir nous dire « je ne souhaite plus bénéficier des 50% ». Et donc payent et même donnent un petit peu plus parce qu'ils peuvent se le permettre.
D'accord. Et ça touche combien de personnes jusqu'à présent ?
Alors on a 243 adhérents, si je ne me trompe pas. Pour ce qui est des... Alors j'ai plus tous les chiffres en tête. Oui, je vais vous passer Émilie.
Émilie.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
En termes de... par exemple, les familles aidées, au 31 mars, ça représente 53 foyers, donc 153 personnes, avec une somme aidée hors don, parce que aussi parmi... la tarification à prix libre, des fois les gens ne donnent pas forcément en fonction de leur situation en fait. On est à 447 euros d'achat aidé en fait. Voilà. Et au niveau d'une tournée hebdomadaire qui représente 11 communes, on a entre 130 et 140 adhérents qui passent.
D'accord.
Voilà, et pour un panier moyen de 10 euros.
Ça veut dire qu'il faut être adhérent pour pouvoir bénéficier du service.
Oui, effectivement, parce que vu qu'on est une épicerie associative, c'est un projet associatif en fait, pour être au regard de la loi, être dans les clous, quoi. On considère que les gens potentiellement sont adhérents. Donc il y a possibilité pour connaître un petit peu l'association que, par exemple, le premier achat, les gens ne demandent pas l'adhésion.
C'est la découverte. Simplement.
Voilà, c'est la découverte. Et puis la fois suivante, s'ils le souhaitent, ils peuvent adhérer, sachant que l'adhésion est à prix libre pour ne pas freiner les personnes et que ça reste ouvert à tout le monde, en fait.
D'accord.
Voilà. Après, la notion de tarification à prix libre, ça peut être des fois pas très aisé, notamment dans certains milieux. Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose qui vient du secteur un petit peu alternatif. Enfin, voilà. Et donc, c'est intéressant aussi, point de vue philosophique, enfin, de discuter là-dessus avec des gens, avec des aînés aussi, la notion de prix libre, enfin, qu'est-ce que ça représente. D'autant plus que eux, au niveau de leurs us et coutumes, c'était peut-être pas forcément un mot prix libre comme ça mis en avant, mais il y avait aussi une notion de troc, d'échange qui existait déjà bien avant nous. Donc, c'est une forme de réappropriation de tout ça. Et c'était notre volonté, en fait, dans le projet aussi.
Qui existe encore en milieu rural, en fait. Donc, pas forcément sur des produits, et encore les produits du jardin, les animaux qu'on élève, etc. Quoi, en fait, effectivement, ça existe encore, comme ça, en fait. Et donc, ils font le lien entre cette dimension prix libre et cette dimension troc.
Pas tout le monde, mais en échangeant autour de ce mot-là, au final, on se rend compte qu'il y a des points de convergence et c'est assez riche, quoi,
ouais, okay.
Au niveau de l'échange.
Et alors, ce projet, vous l'avez monté, on s'était rencontrés déjà il y a quelques années, en fait, donc ça a été une longue aventure, c'était des envies que vous aviez depuis longtemps, c'était...
Alors, l'idée, elle est venue il y a 2 ans. Ça fera 2 ans, un peu plus de 2 ans, ouais. Et effectivement, c'était un travail de longue haleine parce qu'au-delà d'une notion un peu de commerce et tout, il y avait, alors j'ai plus le nom en tête, mais quand tu fais une étude du territoire pour un commerce.
Oui. Ce qui est une très bonne idée. ce que nous prenons dans différentes formations qu'on organise.
Il y avait aussi toute une notion. Enfin, nous, on était plus. Enfin, voilà, du fait de nos parcours sociaux, nous, on était plus sur une étude, voilà, au niveau de l'aspect social, des problématiques du territoire et une forme un peu de diagnostic territorial, mais vraiment très raccourci. On n'a pas l'étoffe non plus de ces métiers-là, quoi, entre guillemets.
Oui.
Mais on a fait un sacré travail quantitatif et j'espère qualitatif. On a rencontré pas mal de monde sur le territoire, que ce soit au niveau des collectivités, que des associations sur le secteur. On a fait une forme d'étude de marché aussi. Enfin, on a fait pas mal de questionnaires. Enfin, voilà, donc ça a mis... pour le coup, l'association s'est montée un an et demi après l'idée. Mmh. Voilà. Et puis, après le montage de l'association, on a mis encore quelques mois pour... aménager la caravane, parce qu'à la base, on était parti sur quelque chose d'un peu plus... formalisé. Enfin, on avait l'idée d'avoir un lieu fixe. Mmh. Puis au final, on n'a pas eu la budgétisation escomptée. Donc, on est parti sur de l'itinérance de prime abord, alors qu'avant, on voulait conjuguer les deux. Et peut-être que je blablate trop.
Non, mais on est là justement pour essayer de déplier tout ça. Hein. Oui.
D'accord.
Vas-y.
Et n'ayant pas non plus les moyens d'avoir un véhicule type camionnette, oui. On est parti sur une caravane.
Oui.
Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas la caravrac, parce qu'à la base, on avait au-delà de l'aspect épicerie, on voulait aussi proposer une autre manière de consommer sur le territoire, parce que le développement durable, enfin, même si c'est des fois un peu des gros mots ou quoi, enfin, ça nous...
C'est pas des fois, c'est tout le temps, c'est des gros mots.
Voilà. Et en tout cas, ça nous tenait à cœur de repenser un peu notre manière de consommer et de proposer ça aussi aux personnes sur le secteur. D'autant plus que tout à l'heure, on parlait du troc, qui est aussi une notion ancienne. Mais auparavant, dans les épiceries, les gens, ils venaient avec leurs contenants et ils achetaient au poids auquel ils voulaient. Il n'y avait pas toutes ces... tous ces déchets quoi, qui étaient engendrés.
C'est ça,
donc c'était un peu de revenir aux sources.
Et cette proposition, justement, elle est bien reçue La question du vrac et tout ça, en fait, vous avez une partie de votre proposition qui est en vrac ou ce que vous vendez est uniquement en vrac ou
On essaye de proposer le plus qu'on peut en vrac.
C'est pas forcément simple à trouver d'ailleurs maintenant.
Au niveau des producteurs locaux, des fois ça peut être compliqué. Donc par exemple pour tout ce qui est crèmerie à l'heure actuelle, puis nous au niveau des normes d'hygiène, enfin voilà, faut qu'on fasse attention aussi. Donc à l'heure actuelle, c'est pas proposé en vrac le frais, hormis les légumes. Enfin voilà, ça c'est.
Je voulais juste préciser qu'en fait effectivement en crèmerie c'est un peu compliqué, mais on a des le producteur de lait par exemple, on demande aux personnes, on a un système de consigne.
Oui, bien sûr.
Et qui permet de faire un retour au producteur. Et,
d'accord.
Et donc ça limite aussi les déchets.
Et quel type de produit vous avez alors qu'est-ce que vous vendez dans la caravrac?
Eh bien, hormis de la viande, même si c'est proposé, hein, c'est pas quelque chose de très développé, mais je veux dire sinon, un peu tout ce qu'on pourrait trouver dans une épicerie lambda, j'ai envie de dire.
D'accord.
Donc ça peut être des légumineuses, des céréales, il y a du café, des céréales de petit déjeuner, des tisanes, des produits d'hygiène, des produits d'entretien, du beurre, du lait, de la crème fraîche, voilà, un petit peu de tout. Ah oui, on n'a pas de croquettes pour animaux, effectivement, d'accord. On y pensera.
On a comptabilisé, parce qu'on a fait l'AG en fait la semaine dernière,
oui.
La première assemblée générale de l'asso. On a 155 produits et on essaye de valoriser la production locale. Donc, je crois qu'en production, en approvisionnement direct, donc on essaye de privilégier l'approvisionnement direct. On a 94 produits en approvisionnement direct, donc le reste en non direct. Parce qu'il y a une partie grossiste, par exemple, pour le chocolat, le café, les condiments.
Pourquoi on n'en fait pas en Bretagne du chocolat?
Et en producteurs locaux, on en a 27 à l'heure actuelle. Et producteurs français en direct, on en a 7 et 3 grossistes différents pour compléter. Voilà.
Et c'est des gens qui ont été partenaires et qui ont été intéressés par l'idée ou chez des...
Peut-être des débouchés.
Oui.
Et l'idée aussi, je pense, je pense que en fait... Peut-être tout un chacun y trouve son compte dans le sens où il y en a pour qui c'est l'aspect solidaire qui parle, d'autres pour qui c'est plus de vendre sur le territoire ce qu'on fait. Ça permet de dégager du temps aussi, par exemple pour des producteurs locaux, ça permet de dégager du temps pour ce qu'ils font en fait au quotidien.
Bien sûr.
Et voilà, enfin, il y a plein de raisons différentes.
Et le territoire sur lequel vous naviguez, il va de quel endroit à quel endroit?
Alors, il va de la Trinité-Porouette, comme c'était indiqué tout à l'heure par le... Je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un qui passait. Et donc, de la Trinité-Porouette jusqu'à Ifindic. En fait, à la base, donc, on est sur deux départements différents. On constatait une similitude au niveau des populations et du manque de petits commerces dans ces... Donc, on s'est dit, pourquoi pas tenter sur ces deux lieux, même si ça... ça a beaucoup compliqué en fait la mise en place du projet parce que c'est plein d'interlocuteurs. Enfin, ça double le nombre d'interlocuteurs. À l'heure actuelle, on est quand même plus développé sur le Morbihan que sur l'Ille-et-Vilaine. Même si pour l'Ille-et-Vilaine, les collectivités territoriales souhaiteraient qu'on vienne plus. Mais nous, on arrive un peu à nos limites. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui va se poser sur les prochains mois de repenser peut-être un peu notre orga et de voir. Qu'est-ce qu'on veut privilégier vraiment? En tout cas, cette expérimentation sur les premiers mois là est plutôt concluante et montre que il y a des besoins en fait, donc c'est super chouette. Enfin, on est très contents. Bien sûr.
Et des besoins qui s'expriment directement par la population ou vous le constatez avec une augmentation de la fréquentation? Comment vous constatez ça?
En fait, c'est sur plusieurs niveaux. Il y a des gens qui vont pas forcément faire de gros achats, qui vont juste prendre une boîte d'œufs, mais qui ont besoin de parler, en fait. Besoin au niveau social. Enfin, tout à l'heure, il était évoqué la disparition des commerces en centre-bourg.
Oui.
Il y a la notion aussi de place du village, où avant, il se passait beaucoup de choses, où il y avait du lien au-delà des commerces. Enfin, voilà. Par exemple, on va et dans les centres-bourgs, mais on va aussi sur des temps de marché. Par exemple, quand on se rend sur des temps de marché où des fois c'est des tout petits marchés, il reste 2-3 personnes, et ben rien que le fait qu'on soit là, c'est chouette quoi. Matt, il discutait tout à l'heure qu'on a une petite table et par exemple le mardi matin, il y a plusieurs personnes et on se retrouve et ils vont prendre une petite galette à la crêpière qui est juste en commerce ambulant, oui. Et puis on va se poser sur la place de l'église tout simplement à discuter et ça c'est des petits moments chouettes quoi.
Oui, bien sûr.
Et après sur l'aspect besoin alimentaire, c'est plutôt intéressant parce que l'association elle a presque doublé, si on peut appeler le chiffre d'affaires, enfin l'activité économique en l'espace de quelques mois. Mais le seul truc c'est que nous, on a beau avoir, ce que je disais tout à l'heure, 155 produits, on arrive un peu au bout de ce qu'on peut contenir. Donc, on a d'autres artisans qui nous sollicitent. Et il y a un moment, on va arriver
à saturation.
Mais en tout cas, du point de vue économique, on s'attend. Enfin, ça va au-delà de ce qu'on prévisionnait,
Donc, en fait, il y a une demande qui est présente et qui pourrait même être multipliée.
Bah oui, comme l'exprimait Émilie, en fait, notre outil de travail qui est donc la caravrac, en fait, arrive à ses limites. Et on voit bien que par rapport aux diverses demandes qu'il peut y avoir selon les secteurs, selon les lieux, ça va être plus de type commercial, disons-le, et sur d'autres endroits ça va être plus social, soit on manque de temps, soit on manque de place, on a un problème de capacité, ne serait-ce que par rapport aux denrées qu'on vend, il y a des produits phares, j'ai envie de dire, qui partent très très vite.
Lesquels par exemple?
Ah, alors, je vais pas...
On fait un comparatif, hein, parce qu'on est à côté d'une épicerie un petit peu au courant de ce qui se passe.
Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, on récupère par exemple des œufs qui sont réformés parce qu'ils sont hors calibre, ils sont trop gros et qui ont un succès absolu. Et on en vend entre 550 et 600 par semaine. Voilà, il y a des gens qui viennent essentiellement pour acheter ça, par exemple.
Il faut les vendre plus cher.
On nous le dit, mais on ne veut pas. Voilà, l'idée c'est que ce soit accessible à tous. Et justement, c'est génial parce que voilà, c'est un produit à pas cher et qui permet justement à des personnes qui n'ont pas trop de sous de venir et de passer une petite heure avec nous à discuter. Mmh. Et voilà, la boîte d'œufs, et le prétexte pour venir nous faire un petit coucou. Et c'est génial quoi. Mmh. Voilà, mais après il y a d'autres produits. Hein. On est passé de saut de 5 kilos à 10 kilos et ça suffit toujours pas des fois.
Oui.
Donc voilà, on voit bien que la capacité est maximale, elle est atteinte en fait. Donc il va falloir dans pas longtemps, je pense, sans trop s'enflammer, mais en tout cas il va falloir repenser un petit peu la disposition des choses et de quelle manière on va procéder.
Et je voudrais revenir sur le territoire parce que Émilie disait qu'il y a une proximité entre les différentes communes sur lesquelles vous intervenez, entre Ifindic et la Trinité-Port-Rouet. Si je regarde d'un point de vue géographique, on est sur le nord de notre territoire. Disons qu'on a un bassin qui est quand même une forme de continuité autour de Brocéliande. Et que cette partie-là du territoire rural, qui est au nord de la nationale, comme ça en fait, est effectivement plus enclavé, moins desservi aussi que peut-être ces parties qui sont au sud, un peu comme les nôtres, même si elles ont aussi leurs problématiques. Mais quand on connaît des communes comme la Trinité-Port-Rouet, etc., on se rend compte que il y a un retard, pas un retard, mais des problématiques de développement local assez nettes. Est-ce que c'est des choses que vous cibliez aussi?
C'est justement à partir du diagnostic qu'on avait fait où on s'est rendu compte un petit peu du désert qu'il pouvait y avoir dans ces secteurs-là, que ce soit en termes de commerce ou de services publics ou autres. Hein. Par exemple, ne serait-ce que les lignes de bus qui ont été mises en place, y a des communes qui ne sont pas desservies.
Oui. C'est quand même des lignes de bus. Il y a des endroits où il n'y a pas de ligne de bus. Regardez ici.
Oui, j'entends bien, mais il y a un isolement qui est quand même vraiment palpable. Et c'est pour ça aussi que notre choix s'est porté sur ces communes-là.
Oui.
On avait aussi recensé quand même les, les personnes qui pouvaient être bénéficiaires des minima sociaux. Bon, bah, là-bas, c'est très fort. Hein, oui. Dire, quand on parle de Ménéac, la Trinité-Porouette, et j'en passe. Hein, mais c'est vrai qu'on a des populations qui sont relativement différentes selon les communes où on va. Et voilà, il y a le vieillissement aussi de la population. Et pour le coup, en fait, voilà, c'est là où c'est génial, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure en privé, j'ai envie de dire, où en fait, chaque commune a sa spécificité et a des besoins et des demandes différentes, en fait. Et donc, c'est là où, pour l'instant, moi, on est dans un checker, là, il y a tout qui se mélange un petit peu pour nous. Mais il va falloir, je pense, à un moment donné, sectoriser un petit peu et un peu adapter la réponse en fonction des besoins. Mais voilà, là, il faudra, je pense, vraiment se poser, et si possible, avec, avec les services publics aussi. Parce que je pense qu'ils ont leur part aussi à faire, à faire là-dedans. On souhaite absolument pas se substituer. On souhaite travailler avec. Donc voilà.
Tu parles de spécificité. Alors, est-ce que tu pourrais en donner un exemple?
Eh bien, pour parler ne serait-ce que de, oui, de Ménéac, c'est le premier exemple qui vient en tête. On va avoir en moyenne, par exemple, 10-15 personnes qui vont venir donc à la Caravrac. Mais on va faire 3 ventes par exemple, donc on voit bien que le besoin il peut être dans les achats, hein, bien sûr, mais il y a aussi une notion de fierté dans les campagnes où les personnes qui nous disent elles-mêmes leur petit revenu, leur bas revenu et leur difficulté à boucler leur mois, voilà, il y a la fierté qui fait qu'elles ne souhaitent pas bénéficier des 50% et elles souhaitent payer donc la totalité de ce qu'elles doivent, donc forcément ça amène quand même des difficultés. Et ça limite quand même leurs achats aussi. Mais par contre, ils vont passer beaucoup de temps. Il y a beaucoup de rencontres qui se font, des gens qui se croisent depuis peut-être des fois des années. Elle le disait elle-même, hein, connaît la personne de vue. Voilà, ça fait 10 ans qu'elles se croisent, elles ne se sont jamais parlé. On met un bonjour à la poste, quoi. Et là, pour le coup, elles prennent le temps de discuter entre elles. Donc ça, c'est génial. En autre besoin, je vais prendre un cas extrême, enfin je vais prendre l'extrême opposé, même s'il n'y a pas que ça bien sûr, hein, mais j'ai vu par exemple à Ifindi que des personnes qui vont être un peu plus aisées, qui vont avoir des revenus quand même plus conséquents, et qui pour le coup, elles recherchent une alimentation saine, voilà, dans une démarche de local, disons-le bio, si possible. Enfin voilà, et qui pour le coup trouvent leur bonheur chez nous et qui pour le coup sont aussi contentes de contribuer à notre projet. Qui n'hésitent pas donc à contribuer. Alors, pas forcément que financièrement d'ailleurs, hein. Il y a des personnes qui ont des compétences et qui nous les proposent.
Quoi par exemple?
Par exemple, avec Emilie, on ne sait absolument pas utiliser Excel. C'est juste un exemple.
Ah bon, je ne suis pas le seul.
On avait des tableaux à faire, voilà. C'était un petit peu compliqué pour nous, ça nous prend énormément de temps. Et pour le coup, on est tombé sur une dame qui avait du temps à consacrer à ça et qui était vraiment ravie de pouvoir nous faire un tableau, je ne sais pas comment on dit, un peu intuitif.
Oui.
Tu vois, où tu rentres des chiffres, machin. Oui. Enfin voilà, tout se calcule tout seul. J'ai trouvé ça magique, quoi, voilà. Bon, c'est un exemple, mais j'en ai plein d'autres. Mais enfin voilà, donc mais à Ifindic aussi, j'ai pu aussi rencontrer des personnes qui sont venues nous demander nous poser des questions par rapport à notre mode de fonctionnement.
Oui.
Justement sur l'aspect social, sur le fait de bénéficier des 50%, enfin voilà, donc c'est bien qu'il y a aussi une demande aussi à cet endroit-là, même s'il y a déjà des réponses sur ce territoire-là, hein. Mais il y a aussi des gens qui ont fait le tour un peu de tout ça, de ces aides, comme je disais tout à l'heure, soit aide alimentaire ou distribution alimentaire, et qui n'en veulent plus, et qui veulent passer à autre chose. Et c'est vrai que quand on en discutait, pour avoir un petit peu sondé quand même des personnes qui pouvaient être dans le besoin des fois, et qui disaient, moi je tiens quand même si c'est très peu, je tiens quand même à payer, à donner quelque chose, à contribuer. Ça s'entend complètement. Je pense que ça sous-entend aussi le fait d'avoir le choix dans ce qu'on va pouvoir consommer, chose qui n'est pas forcément possible dans une distribution alimentaire. On nous donne une caisse avec... ça a le mérite d'exister, hein, mais je pense que, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, mais ça me semble obsolète, ce système, qui est de dire aux personnes, cette semaine, tu mangeras ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui est du tout adapté, et je pense qu'au niveau de l'estime de soi et au niveau de l'estime de soi, je pense pas que ça puisse contribuer à une personne qui est déjà en galère de pouvoir s'élever vers le haut et de pouvoir avancer dans sa problématique, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a pu donc connaître dans nos précédents métiers, jobs qu'on a pu avoir, et je pense que c'est tout ça aussi qui nous a amené justement à imaginer un petit peu cette épicerie, même si on n'avait pas un cliché très clair au départ, hein, dans notre projet de comment on voulait procéder. Je veux dire, le vrac, c'est quelque chose qui est venu par la suite. Le système de la caisse solidaire, c'est pareil, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. Voilà, il y a eu plein de dimensions, en fait. Voilà, tout s'est composé au fur et à mesure et ça nous est apparu, entre guillemets, comme une évidence au fur et à mesure du temps, en disant, mais oui, voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut proposer comme alternative et on voit ce qui se passe et on verra bien quelle réponse on aura en face. Et il s'avère que bon, on est très heureux parce que il y a eu des petites réadaptations, mais de manière générale, les gens ont très 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 bien accepté ce mode de fonctionnement, notamment le vrac. Je vois tout à l'heure, tu demandais à Émilie comment, par exemple, cet aspect-là a été perçu. Moi, j'avoue, quelques a priori par rapport à des personnes âgées qui pouvaient être un petit peu habituées depuis 20, 30, 40 ans à acheter tout, emballer tout. Et en fait, ça se fait d'une manière super naturelle. Si ce n'est que les gens, des fois, culpabilisent un peu parce qu'ils ont oublié leur contenant, leur sac. Bon, bien sûr, nous, en amont, on prévoit ça, donc on fournit, hein, bien sûr. Mmh. Mais ça se limite à ça. Mmh. Et les gens sont même très contents de pouvoir ramener de semaine après semaine leur contenant et de gérer, réaménager leur cuisine et de constater aussi que leur poubelle est réduite considérablement. Parce que, on le sait tous, c'est que surtout dans les campagnes, nos factures de poubelle augmentent d'année en année et on réduit de plus en plus les passages. Mmh. Bon, quand on passe au vrac, ce qui est une chose relativement simple, au final, les poubelles, elles se remplissent plus tant que ça et ça simplifie grandement les choses.
Oui, sûrement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Morgane a une question.
Bonsoir. Donc moi, ma question, c'était par rapport au fait que... Enfin, vous parliez que la demande était là. Et je me demandais de quelle demande... À quelle demande vous répondez, si c'est plutôt le vrac, si c'est plutôt l'aspect solidaire avec la caisse, enfin, voilà.
En fait, comme je disais tout à l'heure, les demandes sont diverses et je crois qu'en fait le projet il répond à diverses tranches de la population. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme je disais, qui veulent consommer intelligemment et qui ont aussi pour habitude, qui avaient pour habitude d'aller dans des magasins spécialisés, j'ai envie de dire, pour pas citer de marque, et qui étaient prêts à faire 40 km aller-retour pour faire leurs courses. Et qui pour le coup là nous disent vous venez sur le pas de notre porte, donc c'est déjà super intéressant. Et que deuxièmement, le fait de faire leurs achats chez nous, en fait, c'est ils contribuent à un projet. Ils soutiennent une cause, enfin il y a un petit côté militant quand même dans tout ça, et qui plaît vraiment beaucoup aux gens. Il y a les divers services, parce que je crois pas qu'on en ait parlé depuis tout à l'heure, mais en fait on propose aussi une aide administrative, c'est-à-dire qu'on met à disposition un ordinateur relié à Internet pour des personnes par exemple qui seraient en zone blanche et qui n'auraient pas accès à Internet de chez elles, ou tout simplement qui maîtrisent pas l'outil informatique et qui auraient des démarches à faire ou des recherches à faire. Donc ça peut être tout simplement une actualisation sur un site administratif, une démarche administrative à faire. Tout comme ça peut être tout simple, chercher un véhicule, une location, aller sur des sites d'annonces pour trouver ce qu'ils recherchent. Enfin voilà, il y a essentiellement quand même une écoute et un lieu de partage, en fait. Enfin, on se rend vraiment compte que les gens maintenant ils prennent vraiment le temps, c'est-à-dire que des gens qui, je dirais une heure un peu bête, mais qui venaient auparavant à 18h, maintenant vont venir à 17h30 parce qu'ils savent que pendant une demi-heure ils vont pouvoir papoter aussi avec des gens, et ou alors on rend une demande. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, une personne qui cherchait un motoculteur et qui est venue, qui a attendu un petit peu que d'autres personnes viennent et tout ça, a lancé sa petite annonce et a trouvé un motoculteur dans la demi-heure. C'est une multitude de petites choses comme ça, positives, qui fait que ça crée du lien en fait entre les gens, quoi, tout simplement. Et on voulait que ce soit un espace convivial, et on a tout fait pour, dans le sens où déjà, par exemple, tout à l'heure, on voyait par exemple dans les reportages que les vendeurs qui étaient dans leur véhicule, en fait, accueillaient les personnes à travers leur comptoir, en fait. Nous, on a tenu absolument à ce que les gens puissent rentrer dans la caravane pour se servir elles-mêmes. Après, si elles souhaitent être servies, les bénévoles sont là pour le faire, il n'y a aucun problème là-dessus, il n'y a aucune obligation. Mais en tout cas, les personnes ont la possibilité de se servir. Et on est allé au-delà de ça, c'est-à-dire que maintenant il y a des adhérents qui ont demandé à apprendre à servir de la caisse, à pouvoir encaisser eux-mêmes des produits, ce qui est fort pratique en cas de forte affluence, parce que quand nous on court entre le camion, la caravane, discuter, répondre aux gens et tout ça, et il y a des adhérents qui sont heureux de pouvoir dire à un autre adhérent, écoute, toi tu sais pas faire, je vais rentrer je vais encaisser tes articles et puis voilà, et on fait totalement confiance et jusque-là ça se passe très très bien. C'est-à-dire que les gens vont dans la démarche de A à Z en fait. Et je pense qu'il y a, un côté aussi, enfin voilà, c'est un bien commun. En fait, on voulait que ce soit vraiment un bien commun et on voulait que les gens s'approprient vraiment l'outil pour pas que nous nous sentions indispensables en fait dans l'espace de vente, que chacun peut se l'approprier. Tant et si bien que voilà, maintenant, on peut se permettre maintenant de faire appel à certains bénévoles quand on a besoin, voilà, que sur une tournée, bah, on n'est pas trop dispo, Émilie ou moi, parce qu'on a aussi une vie de famille. Et je rappelle, on est bénévole hein, jusque-là, depuis 7 mois. Hein. Et donc, il bah, y a des gens qui disent, ok, bah, comme ce soir, par exemple, pour venir ici, il y a une adhérente qui a bien voulu faire du bénévolat, tenir la cara vrac sur Concoré. Jour de forte affluence le mercredi. Et voilà, qui sait gérer la chose, quoi. Et l'idée pour nous aussi, c'est que, plus en rapport avec notre travail social, c'est que, voilà, si on est, nous, plus disponibles et pour être à l'écoute, en fait, ça, c'est quand même bien. Parce que je me suis retrouvé confronté, il n'y a pas si longtemps que ça, à une jeune femme qui est venue m'exposer une problématique qu'elle avait et qui a attendu qu'il n'y ait plus personne à la caravrac, qui a commencé à exposer ses problèmes, qui a fondu en larmes. Et là, pas de chance, un adhérent qui arrive, quoi. Et qui a pas compris mes signes pour dire non stop. Enfin voilà, donc on s'est retrouvé vite confronté aussi à la limite que pouvait offrir la caravrac, en tout cas au niveau du social. Enfin voilà, parce que je tenais l'espace de vente et que en même temps, je répondais à une demande urgente pour la personne. Et voilà. Et donc c'est vrai que ça évolue. Hein. Pour l'instant, comme je disais, il y a de plus en plus de personnes qui se proposent pour tenir l'espace de vente. Et c'est vrai que ça devient maintenant important parce qu'il y a une réelle demande qui commence à venir par rapport à ça.
D'autres questions ?
Je voulais savoir, tu disais que vous restiez un peu de temps au même endroit. Vous faites un endroit par jour ? Vous restez combien de temps au même endroit ou...
En moyenne, alors ça dépend si on est sur un temps de marché ou si c'est sur un temps où nous, on vient dans le centre-bourg se poser, mais on est seul. Mais de manière générale, on est là au minimum 2 heures. Et on peut être là jusqu'à pendant 4 heures, quoi. Je pense par exemple à Uvriguette, avant qu'on aille à la Trinité de Porouette, par exemple, on reste que 2 heures. Le soir, sur les marchés, bah, après c'est un petit peu en fonction de l'affluence, mais... Enfin voilà, on procède pas vraiment comme il faisait dans le reportage, c'est-à-dire qu'il s'arrête, il klaxonne, enfin à l'ancienne, hein, où voilà, il y a les habitants qui sortent, qui font leurs achats, et le camion repart aussitôt. Nous, on tient à avoir un moment de... être visible déjà, que les gens s'approprient, enfin visuellement déjà s'approprient un petit peu la caravane, qui peut être un petit peu rédhibitoire pour certains, parce que c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu excentrique pour certains anciens. J'ai encore un exemple, une personne âgée de Concoré qui de sa fenêtre nous voyait depuis des mois et qui un jour a osé s'arrêter et demander mais qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous faites, quoi. Et j'ai pu expliquer donc notre démarche. Donc cette personne-là était plus dans le besoin, on va dire, de faire des achats que semble-t-il, hein, que plus le caractère social de notre démarche. Mais en tout cas, le monsieur était très content de repartir avec ses 12 œufs et a dit qu'il reviendrait. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore revu, je réalise. Mais il va revenir, j'en suis sûr.
C'est vrai qu'on parlait des communes et du fait qu'on s'arrêtait en centre-bourg, mais il y a aussi la possibilité en fait, de s'arrêter au domicile des personnes. Parce qu'en problématique en milieu rural... Enfin, la mobilité, enfin, le vieillissement sont des problématiques importantes sur notre secteur et d'autant plus là où on circule sur une partie de l'ancienne communauté de communes du Porouet. Et donc, pour le coup, là, toutes les semaines, il y a une personne âgée. Juste avant de s'arrêter en centre-bourg, en fait, on s'arrête au domicile de cette personne. En fait, c'est on fait à la demande, en fait. Puis après, on essaye de caler en fonction de... C'est-à-dire qu'on ne va pas aller à domicile à IFINDIC si la journée... En fait, on cale un peu nos tournées de manière à ce que ce soit cohérente et qu'il n'y ait pas trop d'impact. Enfin, que déjà, le prix du gasoil n'est pas négligeable. Donc, on a essayé de réfléchir au niveau des tournées avec les municipalités aussi. De réfléchir à ce que ce soit cohérent. Et donc, pour le coup, si on passe à domicile aussi, c'est à un moment de tournée proche, en fait.
Je demandais si c'est sur demande de la municipalité, quand tu viens au foyer, enfin, auprès des gens, ou si c'est une demande individuelle.
C'est individuel, en fait. La municipalité, en fait, on leur a proposé notre passage sur leur commune. J'ai pas souvenance, mais là je sais qu'il y a une commune qui est en attente qu'on passe, mais pour l'instant on n'est pas en mesure d'y répondre. Mais voilà, au départ c'était quelque chose de construit conjointement, enfin pour que ce soit bien au clair. Enfin, et à l'heure actuelle, si des gens ont envie qu'on passe à domicile, et ben c'est vu que c'est du domaine privé pour le coup, ça transite pas par la mairie, quoi. On passe directement au domicile. On essaye de se trouver un temps en commun, quoi.
Et justement, quelle réception vous avez eue de la part des communes sur votre proposition ?
Eh bien, ça a été assez... de manière générale, ça a été assez bien accueilli. Quelques maires qui... Comment dire ? Bon, pour parler clairement, ne croyaient pas vraiment à notre projet, hein, le trouvaient un petit peu utopique.
Ah bon ?
Ouais.
Oh, ouais, oui. J'y crois pas.
Non, de manière générale, on nous a dit, en gros, c'était, si ça ne me coûte pas de sous, ça me dérange pas que vous veniez chez nous.
Ah tiens, c'est curieux comme réponse.
Mais on a eu tout type de réponses, hein, ouais. Pour être très clair.
Il y a une commune où on a arrêté, en fait, qui était muelle. Parce que, à la demande de la municipalité, parce qu'il y avait déjà une épicière, en fait. Et on a plus ou moins su le fin fond de l'histoire, mais c'était... problème au sein des deux commerces qui existaient sur la commune où, a priori, l'un des commerces avait un avantage et pas l'autre. Alors pourquoi dans ce cas-là, il y a une épicerie qui passe alors que moi-même, je fais de l'épicerie. Et donc, nous, on ne veut pas créer de problème pour qui que ce soit. Donc, on s'est dit, on arrête. De toute manière, on a de la demande ailleurs. Donc, il n'y a pas de problème pour qu'on puisse arrêter, en fait.
Et est-ce que les choses évoluent ? Vous disiez qu'il y avait, dans 7 mois d'activité, une réactivité assez forte. Et donc, est-ce qu'il y a des demandes qui arrivent ?
De la part des mairies ?
Oui, ou plus généralement, quoi.
On a eu des mairies qui nous ont contactés après coup. Pour nous dire que tout compte fait,
il s'était trompé.
Tout compte fait, il y avait une possibilité. C'est difficile pour nous maintenant d'y répondre parce que c'est vrai qu'on est, on a une organisation qui fait que, on peut pas trop.
Il y a que 48 heures dans chaque journée.
C'est exactement ça. Non, après on a de bons rapports avec d'autres mairies. Enfin, je veux dire, on a des dons des fois d'un EHPAD, pour ne pas le citer, celui de Ménéac, quand ils ont un surplus par exemple de viande, ils en font don donc à l'ELF. Et donc il nous arrivait de contacter après des mairies qu'on allait visiter par la suite, sur lesquelles on allait faire des tournées. Donc on les avait contactés pour dire, si vous connaissez des gens qui peuvent être éventuellement dans le besoin, parce que même si c'était encore bon, la date, il y a des dates aussi à respecter. Les DLC, et pour le coup, les mairies ont joué le jeu, connaissant certaines familles, et en même temps, ça nous permettait, nous, de connaître ces gens-là, et ces gens-là de nous connaître.
Oui.
Et donc, ces personnes venaient chercher, de manière un petit peu surprise, donc ces fameux lots de viande, et ça permet de rentrer en contact, et on s'aperçoit que c'est aussi des personnes qui sont pas mal isolées, qui sont dans des toutes petites communes, et qui sont pas forcément âgés, mais je veux dire qui n'ont pas le permis, pas de véhicule, enfin pas les moyens en tout cas. Enfin, où il y a des grosses problématiques, et c'est là où ça devient super intéressant pour Émilie et moi, c'est que c'est vraiment le cœur de notre projet. Nous, c'était vraiment de toucher ces personnes-là et de voir ce que elles peuvent dire de notre projet et comment elles le voient surtout. Donc pour l'instant, c'est encore tôt, hein. Ça fait que 6-7 mois, et puis il y a des gens qu'on connaît que depuis quelques semaines, et il y a un climat de confiance à instaurer, ça c'est normal.
D'autres questions ?
Je vais poser la question du statut. Pourquoi une asso et pas une société collective ou autre ?
Pour des raisons de facilité, en fait. On s'est dit qu'au départ, commencer par une association, même si on est complètement ouvert à une évolution vers autre chose, on s'est dit que c'était le plus simple pour mettre en place notre projet. Il y avait tellement de paramètres en fait à prendre en compte au départ, au moment du lancement et tout ça, qu'on s'est dit on va pas se compliquer trop la vie non plus par rapport à ça, sachant que ça peut être modifié par la suite. Donc c'est tout simplement pour ça. Et puis qu'on savait qu'il y avait un réseau aussi à créer, c'est-à-dire que fallait lancer déjà notre projet, voir comment ça pouvait commencer à évoluer dans le temps et avec les gens. On voulait aussi voir comment quel était le point de vue des adhérents, des partenaires, on veut quelque chose de vraiment collégial, collectif. et où on ne soit pas les seuls décideurs, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé avec Émilie à la base de, et quelques autres. Hein, on n'était pas que tous les deux, au final, à créer l'association. Mais voilà, on a décidé de procéder comme ça.
Parce que tu parles de bénévoles et tout ça. Donc, ouais, vous n'étiez pas que deux au début. Et puis après, c'est quoi le système avec les bénévoles et...
Alors, au tout début, les tournées se sont faites que... ont été faites que par Émilie et moi. Parce que on avait les gens qui ont pu contribuer ponctuellement en fait sur le projet n'étaient pas forcément disponibles en fait pour gérer des tournées, et puis peut-être je pense aussi que l'aspect social faisait un petit peu peur aussi. Voilà, ils se voyaient pas trop s'improviser entre guillemets travailleur social, ou même si on simplifie les choses, voilà, c'est juste voilà, quelqu'un qui expose une problématique, ça peut très bien être après retourné vers nous, et la situation n'est pas obligée d'être gérée sur le moment, quoi, c'est ça que je veux dire.
Au début, vous n'étiez pas que deux, donc il y a eu un groupe avec vous pour réfléchir à ce projet-là. Ça m'intéresse de voir l'histoire même de l'idée ou la construction, et puis après, comment ça fonctionne avec bénévoles, adhérents et ça aujourd'hui.
En fait, il y a, pour ce qui est des personnes qui sont venues se greffer, c'est vraiment sur la toute fin et début du lancement concret du projet, en fait. Sinon, le montage du projet s'est fait essentiellement entre nous deux, quoi. Pour ce qui est des bénévoles, en fait, bah, tout simplement, enfin, comme son nom l'indique, enfin, je veux dire, voilà, c'était le volontariat des gens qui ont trouvé le concept sympa, qui retrouvaient quelque chose, enfin, voilà, ils se retrouvaient dans ce projet-là. Et pareil, comme on veut jamais rien imposer, en fait, comme ça peut se faire des fois dans certaines épiceries hein, solidaires, où on dit, voilà, si tu veux être bénévole, tu dois t'engager sur tant de semaines ou telle date ou machin. Enfin, voilà. Et nous, c'était pas du tout ça. C'est la seule chose, c'est pour nous, c'est si tu t'engages, c'est sur un jour, par exemple. Tu dis, voilà, moi, je sais pas, le mardi après-midi, je viendrai. Voilà, sauf évidemment, coup de malchance où la personne ne peut pas venir. Quelqu'un, c'est pas de sa faute. Mais c'est juste par rapport à nous, notre organisation, qu'on puisse savoir au préalable, voilà, si on sera seul ou s'il y aura du monde. Mais il n'y a pas de délai, enfin, on n'impose pas de temps de bénévolat, bien entendu. Et en fait, les gens, du fait, tout à l'heure je parlais des adhérents qui apprenaient à gérer la caisse et tout ça, enfin voilà, on sait que ça peut faire un peu peur au départ. Et le fait que maintenant de plus en plus de personnes ont appris un petit peu le fonctionnement de la Caravrac, en fait, s'aperçoivent que c'est pas si compliqué et se sentent maintenant de venir donner un coup de main. Et notamment, là, on a fait une assemblée générale vendredi dernier, donc c'est tout récent. Et des adhérents ont fait part de leur volonté de devenir bénévole sur des aspects bien précis. Pas forcément sur les tournées, mais de s'impliquer un petit peu plus, parce qu'ils ont aussi conscience de l'ampleur de travail que ça nous impose à Émilie et moi. Et je rappelle, c'est du bénévolat, donc au bout d'un moment, on fatigue un petit peu.
Après, ce que je voudrais rajouter, ce qui peut freiner un peu au niveau de l'implication par rapport au bénévolat, c'est le fait qu'on n'est pas de local, que la Caravrac, en fait, elle est située sur notre terrain. Donc, je pense que quand c'est une forme d'approprier, enfin, c'est pas facile, quoi. Et donc, pour le coup, pour les gens, ça peut être un peu un frein, en fait, pour participer au projet. Donc voilà, on est en questionnement. Enfin, ça a été évoqué lors de l'Assemblée Générale sur, en tout cas, au-delà de trouver un local, mais en tout cas de formaliser des temps de rencontre plus réguliers. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a un secteur aussi assez grand, donc à voir en fonction des personnes qui souhaitent s'impliquer, enfin, essayer d'être plutôt en lien sur le territoire. Par exemple, si on a plusieurs personnes sur une même commune, pourquoi pas se donner rendez-vous au café du pays ou dans une salle municipale s'il n'y a pas de café. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui peut pêcher un peu. Voilà, c'est l'absence de lieux bien identifiés. Et nous, il y a un lieu, mais en fait, il bouge tout le temps, donc c'est pas facile pour les gens. Et puis, il faut se la tracter en fait la caravane. Donc tout le monde se sent pas forcément à l'aise. Parce que nous, par exemple, la semaine dernière, on a pris une semaine de congé. Et il y a eu un temps de vente à notre domicile, mais pas réalisé par nous, par une autre bénévole, mais parce qu'en fait, elle ne se sentait pas de déplacer le véhicule sur la tournée. Voilà, donc c'est un des freins et on en a bien conscience, quoi. C'est vrai qu'à la base, on voulait un lieu fixe et une itinérance, mais bon, ça s'est fait comme ça. Et au final, c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler du temps, mais en 6 mois, on trouve que c'est pas si mal que ça, en fait, en termes d'implication des personnes. Elle est quand même bien présente et c'est chouette en peu de temps d'avoir pu rassembler des gens et les avoir pu mobiliser sur si peu de temps. On voit le côté positif du truc, quoi.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des expériences qui sont, par exemple, au niveau du secteur culturel, où il y a eu des projets qui ont été des projets sans lieu fixe, et donc itinérants sur un territoire, et qui, à partir du moment où ils ont eu un lieu fixe, le projet a muté totalement. Et donc on peut moi j'entends bien ce que tu dis, Émilie, à savoir que c'est une charge supplémentaire que d'avoir à gérer les contraintes de votre itinérance. Néanmoins, ça donne une énergie particulière à votre projet, et à votre place, je serais assez vigilant sur le fait de pouvoir avoir justement un lieu fixe qui amène des contraintes supplémentaires et qui ferait muter vraiment l'idée même. En fait. À côté de ça, j'ai une question personnelle. Vous êtes bénévole, quoi, en fait, mais vous êtes bénévole à temps plein, et puis vous avez un autre temps plein à côté, comme ça, en fait. Comment vous faites pour arriver à faire vivre la petite famille aussi ?
Eh ben, en fait, on est sans emploi à l'heure actuelle.
Ah oui, donc vous travaillez comme des fous, quoi, en fait.
C'est ça.
Comme beaucoup.
C'est ça. Mmh. Et disons que pour. Voilà, on savait que ça impliquerait, hein, de toute façon, ce projet-là impliquerait quand même beaucoup de temps de notre part. Maintenant, voilà, on commence à être un petit peu rodé aussi, donc on a un peu essuyé les plâtres, ce qui fait qu'on sait un peu mieux comment s'organiser, oui, pour réduire le temps d'implication. Voilà, maintenant, je veux dire, c'est soit l'un, soit l'autre. Qui faisons une tournée ou la gestion des commandes ou autre, ce qui permet de dégager du temps, et on va pouvoir commencer à réfléchir un petit peu à ce qu'il y a l'un d'entre nous, je pense, qui aille travailler à l'extérieur. Mmh. Et puis l'idée à demeure quand même, c'est de pouvoir créer un emploi, même si c'est un mi-temps, mais au sein de l'association, en fait, hein, mais un emploi de travailleur social.
Oui. De travailleur social.
Voilà, on veut vraiment axer là-dessus, d'où l'intérêt d'avoir une dynamique au niveau des adhérents qui prennent vraiment part à la vie de l'épicerie. Alors, de quelle manière, ça reste à voir, à discuter, en fonction des personnes aussi qui souhaitent s'impliquer. Mais en tout cas, nous, notre souhait, ce serait ça. Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis juste précédemment par rapport à l'itinérance. Quand Émilie parlait d'un lieu fixe, c'est pas du tout pour arrêter l'itinérance, parce que c'est vraiment le cœur de notre projet. Et ça, c'est très important pour nous. Enfin, ça aurait plus de sens si on mutait.
Ce serait pas le même projet, c'est clair.
Ce serait complètement absurde, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, pour en avoir discuté, voilà, s'il y avait un lieu fixe qui se créait, ce serait vraiment en partenariat avec d'autres personnes, avec toute une organisation, mais on serait pas, nous on s'impliquerait pas autant que dans la Caravrac dans un lieu fixe. C'est-à-dire que voilà, on serait tout à fait prêt à développer, on va dire, l'activité sur un lieu parce qu'on en recense les besoins et les habitants aussi sont prêts à s'impliquer là-dedans, et auquel cas on peut trouver une cohésion dans tout ça. Mais l'idée n'est absolument pas que nous, on passe le plus clair de notre temps, en fait, sur le lieu fixe, sur l'épicerie fixe.
Mais il me semble que votre concept d'épicerie solidaire qui s'adresse à tous est beaucoup plus, ça peut être contre-intuitif a priori, mais est plus facile à mettre en œuvre dans le contexte que vous avez choisi que dans le cadre d'un lieu fixe, comme ça, en fait, parce que dans le cadre d'un lieu fixe, on va justement plus identifier les personnes qui viennent, etc., quoi, en fait. Aux enjeux psychologiques dont vous parliez.
Et ben, en fait, par rapport à ce qu'on s'est basé sur des projets déjà existants en France, et en fait, jusqu'à présent, c'est essentiellement des lieux fixes. Enfin, c'est que des lieux fixes, en fait. Les épiceries solidaires mixtes, c'est que des lieux fixes.
Oui. Mais qui fonctionne pas super bien dans la mixité, comme ça, en fait.
Et ben, il y en a un qui est sur sa 12e année d'existence.
Oui.
Et ah, tu veux dire en termes de
mixité sociale, clientèle, et ben, etc.
Par exemple, j'ai le retour. Donc il y en a un qui a 10 années d'existence. Et ils ont à peu près. Alors ils sont plus identifiés effectivement comme épicerie solidaire à proprement parler, mais ils ont néanmoins 30% de clients dits solidaires. Donc enfin voilà, effectivement la parité n'est pas.
Il n'y a pas une vraie mixité comme ça.
Mais par exemple, il y a un autre projet qui est situé à Pessac, en périphérie urbaine de Bordeaux.
Bordeaux.
Et eux, ils ont, je crois que c'est quasiment mixte en fait. En termes de, ils ont 2-3 ans d'existence. Non, peut-être un petit peu plus, parce que quand on avait commencé, ouais, ils ont peut-être 3 ans d'existence jusqu'à présent. Et en fait, il n'y avait pas de projet itinérant en cours. Je ne sais pas s'il y en a à l'heure actuelle. Mais,
Moi, je n'en ai pas connaissance, en tout cas. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans ces cas-là, le lieu d'implantation est extrêmement important. Si ce type de lieu fixe est implanté en centre-ville plutôt qu'en périphérie, dans un quartier défavorisé par principe, etc., quoi, en fait, il y a de grandes chances que la population bénéficiaire sera justement beaucoup plus ouverte que on l'aurait dans un que, comme on, généralement on implante ce type de structure.
De même en milieu rural, en fait, il n'y a pas. À l'heure actuelle, c'est essentiellement. Mais néanmoins, on a eu une visite là récemment d'une épicerie. Alors, je crois que c'est social. Je ne sais plus. C'est une membre du CCAS, une élue, c'est ça.
C'est ça.
Du sud de Rennes. Et l'itinérance leur parlait bien, et donc ils sont venus visiter le projet pour voir ce qu'ils pourraient mettre en place.
Et est-ce que vous auriez envie, vous-même, peut-être, dans le cadre de l'asso, de faire des petits dans d'autres endroits, comme ça, en fait, justement, où vous avez une envie de limiter la taille, justement, et pour quelles raisons, en fait?
Bah. On a avant tout une envie de diffusion, en fait, pour d'autres gens qui souhaiteraient monter sur le territoire. Il y avait eu une petite amorce sur le territoire de Lisieux, qui à l'heure actuelle est un peu, en dormant, je ne sais pas comment tu peux le qualifier, Vanina. Et il y avait eu, au Café de la Forge, un petit temps d'échange autour de ça, sur pourquoi pas sur ce territoire-là. Et nous, on s'était positionné vraiment comme transmission de tout ce qu'on a,
de notre expérience et pourquoi pas accompagner dans le sens où partager, nos expériences et puis tout ce qu'on peut avoir comme indicateur et comme renseignement. Après, pour répondre clairement à ta question, si ça devait évoluer éventuellement. L'idée, c'est pas d'élargir le territoire au maximum. Enfin, nous, on a une caravane. Peut-être qu'on aura un jour deux caravanes, mais moi, dans l'idée, c'est pas du tout de développer.
Ce sera pas un train de caravane.
Non, parce qu'après, j'ai pas envie de devenir que ça devienne une association de gestion.
Ouais.
Voilà. C'est pas trop dans ce cadre-là, mais en tout cas, ayant travaillé auprès des personnes sans domicile, et donc pour une association qui œuvrait pour ça, qui a été absorbée par une plus grosse association, et ainsi de suite, à la fin, c'est que de la gestion, l'humain est complètement mis de côté, ça perd complètement de son sens, en fait. Et je pense que ce qui plaît vraiment aux gens à l'heure actuelle par rapport à la Caravrac, c'est tout l'aspect humain, tout ce qu'on a pu dire jusque-là, les échanges, les belles choses, les choses vraiment très positives qui peuvent se passer, et le côté vraiment solidaire et entraide, ça se perdrait. Donc autant on est complètement ouvert si des gens auraient envie de s'inspirer de notre projet et de l'adapter à son territoire. Là, on est complètement OK pour donner tout ce que les personnes pourraient demander, voire même accompagner, participer à des réunions, je ne sais pas, pour répondre à certaines questions, même si on n'est pas des experts, ça fait que 7 mois qu'on a démarré. Mais l'idée, ce n'est pas du tout de développer, faire un gros truc.
Donc effectivement, pour vous, et comme pour nous ici aussi, c'est la question de la taille critique est une vraie question, en fait. À partir de jusqu'au jusqu'où on peut aller pour équilibrer et puis à partir de quand en fait on bascule dans une dimension trop importante qui fait qu'on perd de vue les raisons pour lesquelles on fait les choses et puis la qualité de la réalisation quoi, en
fait. Bah, surtout que ce serait complètement utopique à mon sens parce que à partir du moment où on développerait sur plusieurs territoires l'aspect fournisseurs locaux, artisans, producteurs locaux, enfin je veux dire comment on gère ça, enfin je veux dire où serait la cohérence si après on commence à, ça nous arrive, hein, on a bien des pâtes qui arrivent du Finistère, mais je veux dire comment en ayant plusieurs points d'implantation gérer, enfin c'est-à-dire que chaque secteur a ses producteurs. Je pense pas que ça, tout le monde serait comblé dans ses besoins. Mmh. Enfin voilà. Enfin, je veux dire, je pense que ce genre de projet en fait doit complètement s'adapter au territoire dans lequel il est, et que si on commence à avoir plein de pions un peu partout, ça peut plus être cohérent. Enfin, je vois difficilement comment ça pourrait évoluer en fait. Mmh.
Mais c'est ça mérite d'être exprimé parce que c'est pas dans la tête de tout le monde. En fait, la logique, enfin l'image qu'on a souvent du succès, c'est grossir. Hein. Et donc, quand on porte des idées différentes, on est souvent des atypiques là aussi. Donc, comment on arrive à atteindre la taille optimale, mais pas la dépasser ? C'est un véritable enjeu.
Je pense que nous, ça se fait assez simplement, dans le sens où déjà, là, on se rend compte que quand même, on a différents territoires sur le seul, enfin celui qu'on a mis en place. On a déjà différents types de populations, différentes demandes, différentes problématiques. Donc déjà, il faut déjà être en mesure de pouvoir y répondre. C'est assez compliqué, comme Émilie l'expliquait aussi, le fait d'être à cheval, par exemple, sur deux départements. Quand on a commencé à parler au démarrage de demandes de subventions et tout ça, il y a les Vilaines qui disent « bah oui, mais le Morbihan », et puis le Morbihan qui dit « bah oui, mais les Vilaines ».
Non, le Morbihan, il dit rien, parce que
les Vilaines qui... Au prorata de quoi, enfin voilà, c'est tout de suite très 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 compliqué, enfin voilà, on voit bien, même ne serait-ce qu'au niveau des com-com, c'est super compliqué, donc non, enfin on peut pas, à mon sens, c'est impossible à mettre en place.
Yves.
Bonsoir, et je suis assez ému et fort... content d'écouter ces témoignages de solidarité, d'épicerie solidaire que je ne connaissais pas beaucoup. Je voulais avoir un retour par rapport à des gens comme moi qui ne savent pas faire la cuisine. Est-ce que vous pouvez donner des conseils de recettes ? Parce que moi, c'est vrai que c'est très difficile d'accepter de faire de la cuisine à mon niveau parce que je mange parfois debout. Je n'ai pas trop l'envie de manger, préparer mon repas. Est-ce qu'il y a des gens qui considèrent aussi que la dignité des produits que vous présentez est très importante dans leur vie concrète ? Parce que c'est important aujourd'hui que les produits aient du goût. J'ai malheureusement travaillé dans les produits pasteurisés et on voit les dégâts énormes du fait qu'on n'a plus de goût. Et est-ce que vous avez des retours de gens qui disent on retrouve un début de revie, de revivre avec des produits vrais.
On a eu différents types de retours, en fait. Enfin, déjà, j'ai eu des réactions de personnes. Alors là, pour le coup, c'était pas forcément des personnes qui étaient dans le besoin financier. Mais pour tout dire, d'ailleurs, je vais balancer un peu. C'était une élue qui était venue visiter la Caravrac et tout. Il dit, mais c'est bien beau ce que vous proposez, mais moi, je saurais absolument pas cuisiner ce que vous proposez. Pour répondre à ça, en fait, pour l'instant, on n'a qu'une caravane, hein, donc on n'a pas de cuisine qui est derrière. Hein. Mais tout simplement, en expliquant aux gens, enfin voilà, nous les gens, ils nous posent la question, comment on fait ? Bon bah voilà, faut laisser tremper tant de temps. On a même affiché un tableau avec les temps de cuisson, de trempage, machin, les petites recettes. On avait dit qu'on mettrait des recettes aussi sur les différents sauts en fonction des produits et tout ça, pour que ça puisse inspirer peut-être un peu les gens, ou en tout cas que les gens osent. Les personnes qui ne connaissent pas ces produits-là osent les acheter et les cuisiner. C'était aussi pour ça qu'on avait envie, à un moment donné, d'allier donc l'itinérance et avoir un lieu fixe. C'était pour pouvoir proposer aussi des ateliers nutrition, ateliers cuisine nutrition, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on avait vu faire dans ce qui allait devenir une épicerie solidaire. C'était dans un quartier assez populaire où en fait les personnes avaient un budget limité et préparaient le repas du midi pour mettons 10 personnes. Et il y avait une nutritionniste qui venait et qui aidait à composer en fait un repas équilibré et, pour vraiment un moindre coût. Et de mémoire, donc on avait été invité à manger le midi. Et pour 2,40€, on avait tous eu, chacun 2,40€, on avait tous eu un repas équilibré, complet et savoureux. Donc, comme quoi c'est possible. Et ça, c'est ce qu'on aimerait développer. Mais c'est vrai qu'en caravane, c'est pas forcément super évident. Mais alors, rien n'est encore fait, mais on est en train de discuter avec Delphine Marot, je sais pas si vous connaissez, du CPIE. Et il lui arrive de faire des ateliers cuisine. Et on est en train de voir de quelle manière on pourrait travailler ensemble pour que les gens s'approvisionnent à la cara vrac et puissent après cuisiner ces fameux aliments. Enfin voilà, donc on essaie de développer ça un petit peu, mais j'avouerai que là on est un peu la tête dans le guidon depuis quelques mois et que c'est des choses qui sont dans notre tête mais qu'on n'a pas encore vraiment mis en place. Mais je le répète, ça se fait assez simplement, hein. On a des gens qui disent voilà, ça me plaît bien, je sais que ça, j'en ai déjà mangé en boîte mais je sais pas le faire cuire. Donc là d'ailleurs on explique que ça sera pas du tout le même goût, ni la même consistance, et que pour le coup voilà, enfin que on donne une petite recette toute simple, et puis les gens sont contents de pouvoir dire en retour que voilà, ils ont réussi leur plat, que c'était sympa, que les enfants ont aimé. Donc enfin c'est assez simple. Donc vous venez si vous voulez et on vous expliquera ce que vous pourrez cuisiner.
La valeur nutritive est importante dans les producteurs locaux. En fait, vous avez il y a une certaine osmose des gens qui produisent des produits de qualité avec l'accueil que peut ressentir la personne quand on voit des produits frais et de qualité, quoi. C'est important, quoi.
C'est ça, on essaie de faire le lien, justement. Enfin, déjà, on s'estime être un peu une vitrine déjà des producteurs. Ça permet aussi, ça leur permet à eux de pourquoi pas développer et de faire connaître leurs produits. Il y a des liens qui se font, enfin, qui sont assez sympas. Par exemple, pour l'Assemblée Générale qu'on avait fait, on a eu notre pâtissier officiel qui est venu présenter des pâtisseries, qui d'ailleurs nous a amené le dessert après le repas. Enfin voilà, c'était super sympa. Donc déjà, c'est bien aussi que les adhérents puissent connaître. Parce que c'est vrai que, comme on disait, on va de la Trinité-Porouët jusqu'à Ifindic. Donc ce pâtissier-là, il est du côté de en lisière de Guillier, forcément, il est pas forcément connu dans les 11 communes dans lesquelles on va. C'est bien. Enfin, il y a un intérêt certain en tout cas pour la bonne bouffe, j'ai envie de dire. Et surtout, les gens se rendent compte qu'à partir du moment où on mange un aliment de qualité, on mangera peut-être un peu moins, mais on aura bien mangé. Et pour le coup, est-ce que c'est beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter au préalable? Je ne sais pas.
Oui, et puis il y a une dimension qui est une dimension, et j'aimerais qu'on on va devoir se quitter, quoi, en fait, parce que le temps file, mais qu'on pense justement à cette dimension plaisir, comme ça, en fait, qui est importante, qui est plaisir aussi de la rencontre, comme vous en témoignez tout à l'heure. Et moi, j'aimerais retenir aussi le fait qu'on parle généralement de solidarité, on en parle dans la société, en parlant des bénéficiaires de la solidarité. Alors que là, votre exemple, ça touche effectivement des personnes qui peuvent en être bénéficiaires, mais c'est une solidarité qui est dans la réciprocité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partie prenante du projet parce que justement ils ont envie de se sentir solidaires, comme ça en fait. Et je trouve que c'est une sacrée belle leçon aussi.
Et ça fait que, si je peux me permettre une minute, c'est que pour le coup, on s'est aperçu, enfin, les adhérents se sont aperçus qu'en fait, ils pouvaient être au préalable, enfin, s'estimer être adhérents solidaires, donc en contribuant au développement du projet, et qui ponctuellement se sont retrouvés, enfin, je l'expliquais tout à l'heure, mais qui se sont retrouvés à bénéficier, sur un moment précis de leur vie, de cette aide-là. Et pour le coup, c'est un petit peu, ça me fait un petit peu penser à la sécurité sociale alimentaire, là, dont oui. le pays de guerre, apparemment, dans le pays de guerre, ils souhaitent mettre ça en place. Je trouve qu'on on s'approche un petit peu de ça avec la caravane, en fait. Voilà, c'est pas du tout qu'on va épargner, mais c'est que on sait qu'en contribuant, on permet au projet de vivre et que, pour le coup, tout un chacun peut être amené à un moment donné à devoir faire appel à cette aide.
En avoir besoin, mais même à la limite, si on n'en a pas besoin, rien que le fait de se sentir solidaire au sens vrai du terme, ça fait partie de la dignité de chacun. Et c'est une belle leçon. En tout cas, merci beaucoup et puis bonne route à la caravrac. À bientôt.
Au revoir.
Les blablas de l'ESS, c'est sérieux ?
sans se prendre au sérieux.